sait proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Barthas.
Tout est va du pied. Dans le premier épisode de cette série consacrée aux images, nous avons discuté de la nécessité de moins prendre les images comme des données que comme des invitations au discours et au débat. C'est-à-dire qu'il est important, pour une juste compréhension des images et pour canaliser leurs effets sur nous, de restituer les conditions matérielles et les conditions idéologiques qui ont présidé à leur conception. Nous avions donné l'exemple de l'imagerie scientifique, qui s'est modifié à travers le temps selon les techniques dont nous disposions pour représenter le réel, il s'agit là des conditions matérielles, et selon les façons de définir la science et l'objectivité, il s'agit là des conditions idéologiques. Si vous n'avez pas écouté cet épisode, je vous invite à l'écouter sur Spotify ou sur le site de Radio Barthas. Si une image peut faire l'objet d'un travail de reconstitution, cela signifie qu'elle peut être réinterprétée et faire l'objet d'une réappropriation à travers le temps. Toutes les grandes œuvres varient au cours du temps, parce que toutes les grandes œuvres n'existent que via le travail de l'esprit qui les interprète, et cela vaut donc aussi pour les images. Voir une image, c'est un acte fort qui nécessite apprentissage, conditionnement et distanciation. En d'autres termes, on en apprend paradoxalement beaucoup sur une image en s'intéressant à tout ce qu'elle ne montre pas, c'est-à-dire notamment à l'imaginaire qui l'a conditionnée et qui conditionne aussi encore inconsciemment notre rapport à elle. En effet, lorsque l'on consomme passivement des images, nous les laissons imposer sans aucun recul leur construction, leur parti pris et donc une certaine vision du monde. Autrement dit, sans réflexion critique sur les images, on peut effectivement dire, selon le mot cher à certains militants, qu'elles viennent coloniser notre imaginaire, ce qui peut finir par influencer nos actions et notre éthique de vie. Nous l'avions vu ensemble, c'est l'image à laquelle l'on adhère sans recul qui est la plus susceptible de rendre violent, parce que c'est elle qui peut abolir la frontière entre la fiction et la réalité. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui l'enjeu ne serait donc pas de blâmer les images ou certaines images par rapport à d'autres, mais plutôt la façon même dont nous sommes exposés aux images et dont nous nous rapportons à elles. Ce mode d'exposition relève du mitraillage, ce qui ne laisse plus le temps à cette prise de recul, cette respiration pourtant nécessaire. C'est pour cette raison que les réseaux sociaux comme Instagram et TikTok inquiètent parfois les neuroscientifiques puisque leur modèle de défilement instantané des images et des vidéos, grâce au swipe, pourrait menacer notre capacité d'attention et la patience qui est nécessaire à la juste appréciation et estimation de tout contenu. Autrement dit, le problème n'est pas celui des images, mais du support des images, qui encourage une attitude de consommateur. Le contenu doit convaincre en un temps record, sinon on peut s'en délaisser aussitôt en passant au suivant. L'image est passée, comme on le dit souvent, sous le régime de l'économie de l'attention. Cela signifie que puisque les images sont surabondantes, le temps d'attention que l'on peut leur accorder individuellement se rétrécit toujours plus. Or, moins on accorde d'attention aux images et paradoxalement, plus elles risquent de nous corrompre. En bref, se ressaisir du temps d'interprétation des images est un savoir élémentaire qui pourrait servir de kit de survie pour tout un chacun. Essayons d'armer ou de réarmer notre esprit à la réception d'un type particulier d'image, les images de paysage. Si nous avons généralement tous une idée de comment les images pornographiques mainstream ont pris possession de notre imaginaire et changé en conséquence notre comportement sexuel, nous ignorons souvent à quel point d'autres types d'images, comme les paysages que nous voyons et avons vus, et la façon dont nous les avons vus, ont aussi colonisé cet imaginaire et notre rapport à l'environnement, en particulier à notre environnement naturel. Sans nous en rendre compte, nous savons d'instinct comment cadrer, construire un paysage par le regard, mais aussi comment classer les paysages sur une échelle esthétique. Nous avons acquis des réflexes quant au paysage qui relèvent de la consommation. Comme le suggère l'expression « paysage de carte postale », le paysage se veut représentatif, à l'époque du tourisme de masse, du caractère exceptionnel, exotique, spectaculaire d'un lieu, et ce afin d'y attirer les touristes. Pour attirer, un lieu doit présenter des points de vue qui sortent de l'ordinaire, qui attirent l'œil, mais qui correspondent dans le même temps aux représentations que l'on se fait déjà du pays où l'on se rend. Paradoxalement, le tourisme nous vend des paysages dits typiques, mais que nous avons déjà à l'esprit, comme de l'exotisme. Dans un essai publié dans les années 2000, intitulé « Le désert de sable, le Sahara dans l'imaginaire des Français », Michel Roux montrait ainsi comment les paysages typiques du Sahara dans l'imaginaire des Français étaient tous des étendues de sable à perte de vue. L'imaginaire touristique du désert en France, sans doute influencé par les romans d'Antoine de Saint-Exupéry comme Le Petit Prince, est fait de poussière d'or tourbillonnante et de dunes de sable. Pourtant, les ergues, les déserts de sable, ne représentent que 20% de la surface totale du Sahara. Les règues, en revanche, les déserts de roches, représentent en fait 80% du Sahara. Les longs plans contemplatifs sur les grands déserts des deux films Dune de Denis Villeneuve ne sont d'ailleurs pas pour démentir cet imaginaire assez stéréotypé du Sahara. C'est notre imaginaire paysager qui est donc en vérité assez pauvre et stéréotypé, surtout si on le compare à la réalité des environnements et écosystèmes naturels. Ce manque de recul sur notre imaginaire paysager et sur les paysages que nous consommons rappelle ce que Marx dénonçait déjà sous le concept de fétichisme de la marchandise. Dans le premier livre du Capital, Marx appelait fétichisme de la marchandise l'attitude qui conditionne l'esprit marchand du capitalisme et qui considère les objets comme dotés d'une valeur intrinsèque et abstraite, c'est-à-dire leur valeur monétaire, estimable grâce à l'argent, comme si ces objets avaient été de toute éternité des marchandises. Cette attitude a pour effet de masquer le processus de production réel, effectif de ces objets, ainsi que les relations de domination et d'exploitation qui l'ont engendré. Autrement dit, nous oublions que ces marchandises que nous consommons sont des produits de la main humaine, et nous les considérons au contraire quasiment comme des émanations directes d'une sorte de dieu argent, le capital, en d'autres termes, comme des fétiches. Le fétichisme de la marchandise participe directement à l'un des effets les plus délétères du capitalisme, l'aliénation, puisque nous ne nous reconnaissons plus dans les produits de notre travail. De même, pour le paysage, il y a une forme de fétichisme. Nous ne nous reconnaissons plus comme producteurs des paysages galvaudés que nous voyons partout. Au contraire, nous jugeons tous les paysages inconsciemment sur leur valeur touristique et marchande, en oubliant que c'est nous-mêmes qui nous enferrons à ces représentations touristiques galvaudées. Le type de paysage qui domine ainsi notre imaginaire en Occident est le paysage point de vue, celui que nous pouvons regarder depuis un sommet, par exemple, et qui offre la nature comme un tapis qui se déroule devant nos yeux. Nos appareils photos se sont même adaptés à notre goût pour ce type de paysage grâce à l'ajout de la fonction panoramique qui permet de prendre des paysages à 360 degrés afin d'embrasser la totalité d'une vue. Si vous lancez une recherche sur un réseau de partage d'images avec le hashtag paysage ou son équivalent anglais landscape, vous constaterez que la plupart des paysages y sont précisément sinon panoramiques, du moins ouvert et offrant souvent un point de vue surplombant et global sur l'environnement. Le paysage, comme spectacle exclusivement optique, pour la vue, est un héritage d'une certaine partie de notre tradition picturale qui a construit l'environnement naturel à distance selon les lois de la perspective. Globalement, à la Renaissance, la préférence va à une nature qui se tient sage, qui peut être embrassée du regard. Cette prédominance des paysages ouverts et qui peuvent être embrassés du regard a des effets concrets sur notre imaginaire et donc sur l'aménagement du territoire. Dans un article intitulé « La fermeture du paysage, au-delà du phénomène chronique d'une petite construction sociale » publié en 2015, les chercheuses et chercheurs Sophie Le Floch, Anne-Sophie Devanne et Jean-Pierre de Fontaine analysent l'apparition et les origines idéologiques du discours sur la fermeture du paysage. La notion de fermeture du paysage désigne, dans l'aménagement du territoire des années 80-90, le phénomène par lequel les friches, notamment agricoles, se boiseraient et se développeraient de manière anarchique, en tendant à obstruer les lignes de fuite du paysage. Par exemple, en paysage de montagne, un paysage qui se fermerait est un paysage où les boisements de résineux viendraient obstruer les vallées et les fonds de vallée, qui constituent les axes visuels de construction du paysage lorsqu'on le regarde en altitude. Dans un certain nombre de cas, ces chercheurs ont montré que le discours de la fermeture du paysage tend à tomber dans une sorte de catastrophisme, car il s'accompagne toujours d'une peur, celle de la mort des campagnes et des territoires ruraux avec le déclin de la population agricole. La fermeture du paysage est en quelque sorte hantée par le spectre du recul de la vie dans ces territoires. À partir des années 90 toutefois, cette notion de fermeture du paysage va être assez vivement remise en question, et ce sont deux conceptions de la nature qui vont s'affronter autour d'elle, et avec ça, deux canons du paysage bien différents. Il faut bien comprendre que c'est le statut des terrains laissés en friche par l'agriculture qui va faire débat. D'un côté, les aménageurs et aménageuses qui s'inquiètent de la fermeture du paysage considèrent les friches comme invasives, incontrôlables, hostiles. De l'autre, des naturalistes comme François Terrasson vont considérer que cette peur de la friche et de la fermeture du paysage est une peur irrationnelle de la nature en général. La peur de l'hostilité du terrain laissé en friche, abandonné à la nature, c'est la peur de la nature elle-même. La fermeture du paysage serait donc, pour François Terrasson et d'autres paysagistes alors, une pure construction sociale. Il est vrai que la fermeture du paysage ne peut être conçue comme une dégradation que dans le cas où l'on retient précisément le paysage ouvert, cette étendue que l'on peut embrasser du regard dont nous parlions déjà, comme un standard de beauté et d'appréciation universelle. Or, qui nous dit que nous devons adhérer par défaut à ce standard de paysage ouvert à la vue avec ses lignes de fuite. Une autre approche du paysage pourrait par exemple opter pour un paysage où c'est moins la vue portante qui importe que le sentiment d'être immergé, dépassé par les forces naturelles. Le romantisme avait donné un nom à ce type de paysage naturel, celui de sublime. Le sublime désigne le sentiment par lequel nous nous sentons entièrement dépassés par un phénomène, par exemple une tempête ou l'immensité de la montagne. Le paysage ordinaire, par opposition au paysage sublime, est un paysage que l'on peut dominer du regard et, d'une certaine façon, contrôler, borner. Derrière notre façon de concevoir le paysage, se joue donc aussi une certaine façon de se rapporter à la nature et notamment la question de son contrôle ou non. La façon dont notre regard est conditionné nous invite à consommer du paysage et surtout des images de paysage. Toutes rapportées inconsciemment au même canon de beauté, par exemple celui d'ouverture, ce qui tend, en vérité, à appauvrir notre rapport à la nature, et surtout aux populations humaines, mais aussi aux autres vivants qui donnent leur caractère unique au paysage. Nous tendons à l'oublier, mais le paysage n'est justement pas qu'une image fixe. Il est aussi le reflet de l'ensemble des vivants qui le peuplent. Dans son roman « Croire aux fauves », publié en 2019, l'anthropologue Nastasia Martin raconte sa malheureuse rencontre avec un ours blanc alors qu'elle parcourait la Sibérie durant une mission de recherche avec ses collègues. Ayant miraculeusement survécu, elle explique notamment que cette rencontre aurait pu être évitée si elle avait été plus attentive à cet instant au fait qu'elle entrait sur le territoire d'un ours blanc. Elle blâme en particulier notre tradition paysagère et son aveuglement quant aux êtres vivants qui peuplent le paysage et qui y laissent pourtant nombre de traces. Le fait est que nous tendons à concevoir souvent le paysage comme cette étendue vierge qui se déroule au regard, en tendant à ignorer ceux qui s'y trouvent et qui le peuplent. Le paysage nous apparaît comme étant muet. Quand je dis « nous », je ne parle pas de tout le monde, il est vrai. Je parle plutôt des jeunes et des populations urbaines, car il est vrai que les sensibilités et cultures dites rurales transmettent encore des savoirs sur les vivants, leur observation et la reconnaissance de ces derniers. Précisément, la pensée écologique connaît une crise de légitimité auprès de ces mêmes populations rurales, comme on a pu le voir avec les agriculteurs qui dénoncent l'écologie bobo urbaine de gauche, ou même les chasseurs qui considèrent que les urbains écolos sont déconnectés de la réalité de ce qu'est un être vivant. Or, suspendons un temps la question de savoir ce qu'on pense de la chasse, des pesticides et de l'état de l'agriculture française pour nous demander, Pourquoi une telle virulence envers une certaine frange de l'écologie? En un sens, cette accusation n'est pas entièrement dépourvue de sens. Effectivement, s'interroger sur les pratiques de chasse, lutter pour l'interdiction des pesticides, tout cela a du sens éthiquement parlant. Mais on ne peut nier que la culture écologique urbaine est parfois dépourvue d'une véritable sensibilité à la nature et au vivant. Comme le souligne le philosophe Baptiste Morisot, la crise écologique n'est pas qu'une crise écosystémique ou du vivant en soi, mais encore une crise de notre sensibilité générale au vivant. Souvent, les chasseurs répondront aux urbains antispécistes, par exemple, que ces mêmes antispécistes ne connaissent parfois pas la différence entre une buse et un vautour, et n'ont jamais vu de loup de leur vie. Donc ne connaissent pas grand-chose de ceux qu'ils prétendent défendre. Avant de mépriser ces accusations par conscience environnementale et animaliste à nouveau bien légitime, peut-être faut-il vraiment aussi prendre au sérieux ce qu'elles visent. À savoir qu'effectivement, ce que nous voyons aujourd'hui dans les paysages périclite dangereusement. À la manière dont nous avons peu de savoir sur l'image, nous instruire sur la façon dont un paysage se construit, autant sur la toile d'un peintre que dans l'œil de l'observateur réel, autant pour l'être vivant qui l'aménage que pour celui qui le parcourt, pourrait nous permettre de sortir de ce rapport de plus en plus pauvre, de plus en plus désincarné au paysage, afin de lui restituer sa richesse, sa singularité et son histoire. Au travers d'un petit historique du paysage, nous essaierons aujourd'hui de repeupler nos paysages et de montrer les liens que l'homme a pu nouer avec son environnement à travers eux. Vous écoutez les Va-nu-pieds et aujourd'hui nous allons parler du paysage.
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez, mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand? Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya,
warapunwe ni wapuye, waragowe ni wagoka. Étymologiquement, le terme de paysage est dérivé de pays. Le pays, la contrée, le territoire, c'est l'environnement physique, naturel et ou anthropique, humanisé. Le paysage, c'est la façon dont le pays est perçu par les sens, en particulier et dès le début de son histoire, par la vue. L'étymologie des langues latines, français, italien, portugais, espagnol, date du XVIe siècle et tire davantage vers le sens pictural, esthétique de la notion. Le paysage, c'est la surface visible du pays, l'étendue que l'on peint avec les yeux. C'est le pays tel qu'il s'offre à celui qui le contemple. Le paysage est donc une notion esthétique, picturale, liée à la perception sensible. Dans son court traité du paysage, publié en 1997, le philosophe Alain Roger définit le paysage comme le pays qu'on a artialisé, c'est-à-dire qu'on a transformé par l'art. Comment transforme-t-on un pays en paysage selon Alain Roger? Soit en l'aménageant in situ, sur site, par exemple un jardin à la française ou à l'anglaise est un aménagement sur site qui transforme le pays en paysage, soit par une opération de notre œil, in visu. Notre regard et les multiples influences culturelles et artistiques qui l'ont formé viennent construire le paysage. Ainsi, Alain Roger explique que c'est notamment l'art qui nous a habitués et permis de voir les paysages. Par exemple, le peintre Paul Cézanne a peint de très nombreuses vues de la montagne de la Sainte-Victoire près d'Aix-en-Provence. Il a donc artialisé, transformé durablement pour nous la Sainte-Victoire en paysage. Lorsque nous regardons la Sainte-Victoire, nous sommes susceptibles de la regarder à la manière de Paul Cézanne, selon les canons de l'art. L'on dit d'ailleurs souvent d'un paysage qu'il est pittoresque, adjectif qui signifie littéralement « digne d'être peint ». Autrement dit, L'art a influencé notre œil, notre regard sur notre environnement, et en nous révélant des aspects que nous avions ignorés jusque-là, nous invite à la contemplation du pays. La contemplation, la vue de loin, marque donc en grande partie la naissance du paysage dans l'histoire. L'étymologie germanique de l'équivalent du terme de paysage, en néerlandais landscape, en allemand Landschaft, puis en anglais landscape, marque davantage sa dimension politique et géographique. Il désigne ainsi plutôt le pays, land, qui est alentour et qui est contrôlé par la société qui se trouve en son centre. Schaft en allemand signifiant la société, littéralement Landschaft veut donc dire le pays de la société, le pays socialisé. Ce pays était notamment aux Pays-Bas, les terres d'élevage qui s'étendaient autour des villes et villages. En d'autres termes, le paysage a une double valeur dans son étymologie. Une valeur esthétique, culturelle, le pays que l'on regarde et que l'on contemple, mais aussi une valeur géographique, politique, c'est-à-dire la surface que l'on contrôle et qui s'étend au-devant de nous. Le regard au loin, la contemplation, renvoie donc à cette double dimension d'agrément et de contrôle, un peu comme on peut s'imaginer le seigneur qui regarderait de loin les terres des paysans qui chapotent. D'une certaine façon, et comme le dit Alain Roger, c'est celui qui jouit du temps du loisir, donc celui qui ne travaille pas la terre, qui ne travaille pas au pays comme le paysan, qui jouit en même temps du privilège de le regarder. On dit alors parfois que cette contemplation en devient désintéressée, car elle n'est pas liée au travail de la terre ou à un intérêt économique ou matériel, mais est précisément désœuvrée, distante. La contemplation est permise par le temps de loisir qui est un privilège dont disposent les couches supérieures de la société. De fait, ce sont bien parmi les aristocrates et les bourgeois que se développe le goût pour le paysage, principalement via la peinture de paysage. Pour comprendre l'émergence de la notion de paysage, il faut donc nécessairement passer par cette peinture. Selon le géographe, philosophe et orientaliste Augustin Berck, il existe deux grandes civilisations du paysage, c'est-à-dire qui ont non seulement formé le concept de paysage, mais qui ont créé un genre artistique dédié au paysage. L'Occident dès la Renaissance, mais également la Chine dans l'Antiquité. En chinois, le terme shanshui est un équivalent de paysage. Ce terme est formé à partir des mots signifiant montagne et eau. Le shanshui, c'est donc littéralement l'ensemble formé par l'association des montagnes et des cours d'eau. Ce type de site est d'abord célébré lors de fêtes et de réunions très ritualisées. Il devient ensuite un topos de la peinture, toujours accompagné d'inscriptions calligraphiques. En Occident, c'est à la Renaissance que naît à proprement parler le concept de paysage, ainsi que la peinture de paysage. Dans la peinture, le paysage n'est pas tout de suite le sujet principal du tableau. Il sert d'abord de décor à une scène religieuse ou mythologique. Dans les tableaux hollandais et italiens, au XVe siècle, on trouve déjà des fenêtres en intérieur mais qui ouvrent une vue sur le paysage. Dans le célèbre tableau du peintre flamand Jan van Eyck, La Vierge du chancelier Rollin, qui date de 1435, on peut apercevoir par une fenêtre, derrière la scène principale qui représente le chancelier Rollin, commanditaire du tableau, en conversation sacrée avec la Vierge qui tient l'enfant sur ses genoux, un paysage qui s'étend devant le balcon. Ce tableau n'obéit pas exactement aux règles mathématiques de la perspective, lesquelles seront énoncées exactement un an plus tard par l'humaniste Léon Battista Alberti. Cependant, les lignes de fuite convergent néanmoins toutes plus ou moins vers le paysage au dehors. Ainsi, dans ce tableau et dans d'autres, le paysage est l'arrière-plan, le décor qui se trouve à l'arrière de l'action des sujets. On estime que le premier peintre à prendre le paysage en lui-même pour sujet est le peintre flamand Joachim Patinier. Si ces tableaux sont toujours en théorie des scènes historiques ou bibliques, on le considère toutefois comme l'inventeur du paysage monde, c'est-à-dire un type de peinture de paysage où celui-ci devient si imposant qu'il éclipse le sujet du tableau. À partir de Patinier, les peintres vont se mettre à accorder un soin inédit au paysage dans leurs tableaux. la fin du XVIe siècle et le long cours du XVIIe siècle vont alors être le théâtre d'une progressive montée en puissance du genre de la peinture de paysage, qui sera toutefois toujours considéré, dans la hiérarchie officielle des genres picturaux, comme un genre moins important que la peinture d'histoire. En France, le champion de la peinture de paysage est le peintre classique Claude Gelée, qu'on connaît sous le surnom de Le Lorrain. Les peintures du Lorrain sont souvent considérées comme idéalistes, car elles présentent des paysages idylliques, voire oniriques, rappelant moins le monde tel qu'il est qu'à un monde à venir utopique. L'influence du Lorrain sur les couches supérieures de la société a été telle que les aristocrates qui effectuaient ce qu'on appelait le Grand Tour d'Europe, et surtout donc d'Italie, emmenaient fréquemment avec eux, au XVIIIe siècle, un petit miroir convexe et de couleur sombre, appelé miroir noir ou miroir de Claude Lorrain. Ce petit miroir est un dispositif qui permet, lorsqu'on le place face à un paysage que l'on veut peindre, non seulement de fournir le cadre isolé du reste de la nature, qui sera donc celui de la peinture, mais encore d'atténuer ou au contraire d'accentuer les contrastes en répartissant mieux les couleurs. Celui qui s'en sert est donc dos au paysage qu'il veut peindre, en le regardant uniquement à travers les filtres du miroir. En d'autres termes, ce miroir a été utilisé pour imiter les paysages du Lorrain, montrant non seulement l'influence du peintre, mais encore de la peinture sur la perception du paysage. Ce miroir servait à transformer le paysage devant soi directement en image ou proto-image qui servira de modèle à la peinture à venir. Ce type d'outil est très proche de ce qu'on appelait les chambres noires ou camera obscura, un autre instrument optique qui permettait de projeter une image en deux dimensions sur une surface plane et qui facilitait grandement le travail des peintres. Ces deux instruments étaient d'ailleurs sans doute utilisés afin de peindre les vedute, l'italien pour vue, c'est-à-dire des petits tableaux de paysages, souvent urbains, et qui étaient à l'origine des peintures souvenirs que l'aristocratie qui faisait son grand tour commandait aux peintres afin de les ramener de leur voyage. On compte ainsi nombre de tableaux de la jeunesse dorée de l'époque où elle pose devant les paysages typiques de l'Italie comme pour prouver l'accomplissement de cette étape essentielle dans sa formation intellectuelle. En d'autres termes, il n'a pas du tout fallu attendre la photographie et encore moins le tourisme de masse mondialisé ou les réseaux sociaux pour voir l'émergence d'une industrie des souvenirs de voyage dont les paysages étaient l'emblème. L'imaginaire occidental a donc tendance, et ce depuis en vérité plusieurs siècles, à être saturé par la manière classique de faire les paysages, des paysages qui sont aussi devenus depuis le XVIIIe siècle les artefacts touristiques majeurs. Les paysages dits classiques manifestent souvent une préférence pour la nature humanisée, rationalisable, contrôlable, maîtrisée, selon l'équilibre entre les principes antiques repris à la Renaissance, dits de varietas et d'ordo. Ces principes veulent que toute variété, diversité, profusion, varietas, soit toujours en même temps contenu dans la peinture par un principe d'organisation, un ordre, ordo. En d'autres termes, la profusion doit toujours être maîtrisée. Pour le dire dans les termes de l'humaniste Léon Battista Alberti que nous avions déjà cité, j'aimerais que cette richesse soit agrémentée d'une certaine variété, pondérée et modérée par de la dignité et de la retenue. Je réprouve ces peintres qui, pour avoir l'air abondant et ne rien laisser de vide, ne suivent aucune espèce de composition, mais sèment les objets confusément et sans lien. L'un des principes d'organisation du paysage et de la peinture en général par excellence depuis le XVe siècle étant la perspective. On considère que l'on doit la première véritable théorisation de la perspective moderne, à nouveau et justement, à Léon Battista Alberti dans son traité de peinture le De Pictura, écrit en 1436. Ce traité pose les principes géométriques de la construction de la profondeur perspective dans un tableau à partir d'un œil humain. Pour faire simple, on construit une pyramide à partir de l'œil de l'observateur jusqu'au tableau qui sera construit comme une fenêtre sur une scène. Puis à partir d'un ensemble de droites tracées depuis l'œil, on construira un dallage de lignes de fuite qui convergeront vers un ou plusieurs points de fuite, ce afin de donner à l'œil humain l'illusion de la profondeur dans le tableau. Cette méthode de perspective est artificielle et ne correspond pas à notre vue naturelle de la profondeur. En effet, elle est géométriquement exacte et ignore les défauts de notre perception naturelle. Par exemple, le fait que, puisque nous avons deux yeux, notre champ visuel a une forme dite sphéroïde. C'est-à-dire que ce qui y apparaît, dans notre champ visuel, tend à être déformé sur les côtés du fait même que nous avons deux yeux. En gros, notre perception périphérique déforme les objets. Ce qui signifie que la perspective des tableaux est une projection idéale, géométrique du monde. La perspective a donc un double effet sur la perception de la nature à l'ère de la modernité. Non seulement elle soumet la nature à un ensemble de lois mathématiques, la constituant en un espace homogène et idéal qui est le même partout, mais elle la tient en même temps devant l'observateur, elle se tient devant lui comme objet. La perspective a donc en un sens contribué à séparer le sujet humain de l'environnement qui lui fait face. D'accord, mais on pourrait bien dire, et alors ? Pourquoi une technique picturale aurait-elle une telle importance politique et culturelle ? Eh bien car l'émergence de la perspective est simultanée de l'apparition d'une certaine vision du monde. Dans son ouvrage « La perspective comme forme symbolique », le philosophe allemand Erwin Panofsky explique comment la perspective en tant que technique picturale est en fait pleinement en raccord avec la conception humaniste renaissante du monde et de l'espace. En effet, comme il l'explique lui-même, la perspective est duelle. Comme nous l'avons dit, elle est une construction géométrique de l'espace qui corrige les défauts de notre vision biologique et elle a donc un caractère objectif, scientifique, mathématique. Mais toute perspective se construit à partir de l'œil humain, et ce faisant, elle est aussi subjective, en rapport avec un être humain. La conception renaissante du monde veut en somme que le monde soit à l'image de l'homme, ou disons entièrement appréhendable par les capacités humaines. Bref, que le monde soit commensurable au sujet humain. Auparavant, la pensée chrétienne médiévale insistait au contraire sur le caractère incommensurable des vérités sur le monde, accessible uniquement par la foi et la révélation divine. L'humanisme de la Renaissance, en établissant une commensurabilité entre l'homme et le monde, aura soumis notamment la nature aux lois mathématiques. Bref, l'esprit humain devient, selon le mot du sophiste Protagoras, la mesure de toute chose. La perspective, en faisant du monde une projection géométrique depuis un sujet humain, s'inscrit tout à fait dans cette idée. Elle précède ainsi, mais annonce aussi, d'une certaine manière, pour Panofsky, la philosophie de René Descartes qui, au XVIIe siècle, distingue dans les méditations métaphysiques la res cogitans, ou substance pensante, c'est-à-dire l'esprit humain, et la res extensa, la substance étendue, c'est-à-dire la matière. Descartes considère que cette res extensa, la matière, se trouve dans un espace mathématique et homogène, virtuellement infini et infiniment divisible, et qui est le même partout. Or, puisque c'est l'esprit humain qui se trouve capable de comprendre les lois mathématiques et mécaniques qui gouvernent l'espace et donc la nature, Descartes considère, selon le fameux mot galvaudé de la sixième des méditations métaphysiques, que l'homme peut se rendre comme maître et possesseur de la nature. Cela ne signifie pas que Descartes considère qu'on puisse détruire la nature. Bien au contraire, se faisant maître, l'homme devient en même temps responsable de la nature qu'il contrôle. Toutefois, si on ne peut pas faire à Descartes les procès de l'extractivisme contemporain, sa philosophie ne prend pas suffisamment acte du fait que la nature n'est pas qu'une étendue spatiale et mécanique vierge. La voir comme une seule étendue conditionne à la considérer comme passive, comme une réserve de ressources et de potentialités, et surtout à séparer le monde humain des milieux naturels, à séparer d'un côté le sujet et de l'autre l'objet nature. Or, si cela peut sembler évident, il faut quand même le rappeler, le paysage est aussi peuplé d'autres êtres vivants qui, loin d'être des machines comme le voulait Descartes, ont des manières d'être irréductibles à l'être humain et surtout irréductibles à des lois mécaniques. Ainsi, notre cosmologie mécaniste a pu mener à appauvrir notre manière de voir le paysage, a pu conditionner une tendance à le considérer comme une image silencieuse. Nous peinons à y reconnaître le vivant, comme le terme de « nature morte », parfois utilisé pour qualifier des objets inanimés autant que des dessins de plantes, le suggèrent. Plus le temps passe, et plus nous réduisons nos paysages soit à des décors pour l'action de nos vies, soit à des symboles de nos émotions. Dans son ouvrage « Paysages en mouvement », Marc Desportes explique par exemple que notre habituation aux paysages qui défilent dans la voiture ou dans le train a pour conséquence de les dématérialiser, de les désincarner. Nous ne foulons plus directement le sol, n'avons plus de contact avec la matérialité du paysage, comme dans la marche ou le vélo. S'ensuit un paysage devenu succession d'images défilantes avec lesquelles nous n'avons plus aucune attache. Les paysages subissent eux aussi en effet les effets du déracinement collectif, ont tendance à être déterritorialisés. Perdre le sens des paysages, c'est perdre le sens des lieux que nous habitons. Et perdre le sens des lieux que nous habitons, c'est cesser par extension d'exister, d'être animé, hanté, gagné par le passé, la culture, les autres vivants et le monde. Dans son ouvrage « Le champ des pistes », l'écrivain Bruce Chatwin relate ses observations des liens des aborigènes à leur territoire. Il raconte ainsi comment les paysages de l'Australie sont tissés, pour eux, du grand mythe collectif qu'ils partagent et transmettent et qui est traduit dans notre langue par « temps du rêve ». Le temps du rêve constitue l'ensemble des mythes fondateurs aborigènes sur la création du monde et l'apparition des espèces animales. Les récits de ces mythes sont tous liés, ancrés dans un paysage particulier de l'Australie, et en conséquence, l'ensemble de l'île a été cartographié en faisant référence à ces récits. Lorsque les aborigènes parcourent l'Australie, elle et ses paysages, ils chantent en même temps les épisodes du temps du rêve qui sont liés à ces paysages. Ainsi donc, le paysage est en fait parcouru par les murmures, des murmures qui sont les récits des hommes qui parlent des lieux dans lesquels ils ont vécu, mais aussi les murmures des animaux qui s'y trouvent. Peut-être faut-il réapprendre à écouter ces histoires, réapprendre à tendre l'oreille aux murmures des paysages. Il ne faudrait donc pas que le constat que nous avons dessiné sur notre rapport au paysage devienne une fatalité. Il existe mille et une manières de réapprendre à voir et à vivre au sein de nos paysages. Dans son ouvrage intitulé très justement « Apprendre à voir », la philosophe et historienne de l'art Estelle Zhong-Mengal le rappelle. « Voir est un pli que l'on prend par l'exercice, par la capacité à cultiver de nouvelles habitudes d'observation. » Le fait de ne pas être né dans une cosmologie animiste ou aborigène, en Occident, ne signifie pas que nous sommes voués à ne plus jamais percevoir les paysages de manière plus riche. Précisément, la perception n'est pas affaire de bassin culturel ou déterminée entièrement par notre socialisation. Elle est avant tout affaire de pratique. L'historienne nous invite à déplacer notre regard sur notre propre culture et à regarder les œuvres de nos artistes célèbres différemment. Ce faisant, elle propose par exemple de s'intéresser à certains dessins naturalistes déconsidérés des peintres de la Renaissance. Ainsi du graveur et dessinateur Albrecht Dürer et de son dessin intitulé « Grande touffe d'herbe », dessin qui rend avec une minutie extrême plusieurs espèces de plantes dans une seule et grande touffe d'herbe. Nous pouvons citer au moins le dactyle, l'agrostide stolonifère, le pâturin des prés, la pâquerette, le pissenlit, la véronique petit chêne, le grand plantain, la langue de chien et l'achillée millefeuille. Il est intéressant de constater que même la page Wikipédia décrit le dessin en utilisant une formule restrictive. Le dessin ne représente qu'une grande touffe d'herbe sur un sol marécageux. Que ça, tout en énumérant une dizaine de plantes qui y sont pourtant représentées. Autrement dit, la nature, même lorsqu'elle est riche et variée, est un non-sujet, et pour être un sujet, un tableau devrait figurer des hommes ou des vestiges humains. Déplacer ou inverser le regard traditionnel est un peu la mission que nous donnent Estelle Zhong-Mengal et le philosophe Baptiste Morisot, pour qui la crise écologique que nous traversons n'est pas, à nouveau, seulement une crise écosystémique ou une crise du vivant, mais encore une crise de notre sensibilité même au vivant. De notre sensibilité à la nature, aux paysages et à ceux qui les peuplent. Il ne suffit pas de savoir, il faut encore sentir. Les collections Monde Sauvage publient régulièrement des ouvrages qui veulent essayer d'accomplir pour nous ce geste de resensibilisation aux vivants qui nous entourent et surtout à leur façon d'être, chaque fois unique. Le philosophe Baptiste Morisot a par exemple écrit de nombreux ouvrages sur les loups, en invitant à les pister et à comprendre les signes et les traces que ces derniers essaiment dans le paysage. Dans l'optique de nous resensibiliser au paysage, par exemple en invitant à la marche, le pistage ou encore la cueillette, aux fleurs, aux champignons, etc., le romantisme a été le principal concurrent dans notre culture artistique des paysages dits classiques, en introduisant par exemple des paysages souvent menaçants qui invitaient en brisant le cadre classique du tableau à l'immersion au sein du paysage. Les naturalistes romantiques cultivaient un lien au vivant qui était parfois trop chargé d'émotions humaines, comme les expressions paysage état d'âme peuvent le signaler. Mais on trouvait chez eux également une véritable attention aux spécificités des êtres vivants, et surtout au dynamisme naturel. Le poète et écrivain anglais romantique John Ruskin a notamment voué un véritable culte aux paysages alpins. Certaines de ses aquarelles dépeignent ainsi ces derniers dans la tourmente d'une tempête. Plus récemment, les photographies d'Éric Bourret essaient de capturer le paysage tel qu'il est vu par le marcheur ou la marcheuse, c'est-à-dire avec l'effet de trembler de bas en haut, qui rappelle l'expérience de la randonnée en montagne, signifiant ainsi que le paysage est toujours traversé, vécu, vu au travers du mouvement de celui qui le foule. Loin de se réduire à un point de vue ou à une image, le paysage est d'abord saturé, comme toute image, par de l'impensé et de l'invisible. Des histoires humaines, mais aussi des voix et des regards animaux. Réapprendre à vivre de paysage et à recultiver des liens avec lui, voilà peut-être l'un des enjeux pour un certain nombre d'entre nous, peut-être même les plus jeunes, qui traversons ou sommes dans des espaces sans parfois les vivre, les habiter, les incarner, leur donner du sens et une portée. D'autant que la perte des paysages est aussi devenue un des enjeux des politiques publiques, ceci faisant partie indéniablement de notre bien-être quotidien. La Convention de Florence, par exemple, qui date déjà de 2000, norme au niveau européen la gestion des paysages et qualifie ces derniers, y compris les paysages les plus quotidiens, banals et ordinaires, de composantes indispensables au bien-être des habitants des territoires. Si cela peut donc paraître trivial de s'intéresser aux paysages, il ne faut pas oublier qu'en vérité ce sont des questions de santé publique qui sont engagées derrière la détérioration de notre lien sensible à la nature et à l'environnement. Le terme de solastalgie qualifie la détresse psychique causée par les changements environnementaux de plus en plus rapides et qui transforme complètement nos habitudes paysagères. Sentiment de détresse face à un rythme immaîtrisable qui est de plus en plus documenté. Tout le monde peut aujourd'hui au moins raconter une expérience de ce type. Changement brusque, métamorphose rapide des paysages de son enfance sous l'effet du réchauffement climatique. Tous les alpins pourront parler des glaciers qui se réduisent à peau de chagrin, tous les sudistes pourront parler de leurs rigoles asséchées, tous les bretons des algues vertes, et ainsi de suite. Ainsi donc, et en guise de conclusion, il semble nécessaire de contracter de nouveaux rapports sensibles à ce qui nous entoure, dans une véritable insurrection, révolution des sens. Avant la fin du monde, peut-être faudrait-il au moins reprendre le temps vital du paysage.
Quand j'ai marché dans l'allée des séquoias, j'ai respiré en entier pour une fois. Et envoyé 2000 prières au vent pour nous sauver de toutes les peines d'avant. Avant la rivière a séché, ah, 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 ah. le silence, les faiblesses de ma voix et habiter mon propre corps pour la première fois. J'ai bien gardé tous les secrets du vent entremêlés, la salle épaisse et mon sang.
C'est proprement avoir les yeux fermés sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosopher.
Va du pied, tout est va du pied.
Suivons le mouvement de la pensée.
Diffusé le samedi à 10h, une semaine sur deux, rediffusion le lundi à 17h sur Radio Barthas.
Tout est va du pied.